France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer. Allons-y.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Adieu camarades, la RDA au quotidien.
Il y avait une idéologie communiste et elle était très forte. L'objectif était de former de bons citoyens, sains et irréprochables.
En 1989, quand les horloges sonnèrent en RDA après 40 ans de marxisme-léninisme, elles réveillèrent non pas un homme nouveau, mais un homme pétrifié. Les chants à la gloire du progrès avaient fini par être entendus comme des berceuses sur les 16-17 millions d'habitants du pays. Combien y avait-il de personnalités doubles, communistes en apparence au travail et repliées en famille sur leurs valeurs propres? La série d'Arte, qui s'achève ce mardi 7 février, s'intitule « Adieu, camarades ». Adieu, en effet. Comment reconstituer l'histoire vécue du peuple communiste? Elle était plus grise que rouge, elle vire maintenant sépia. Au cœur de l'Europe, gît une Atlantide. Certains en cultivent la nostalgie, mais les militants qui ont fait tomber un vieux régime vermoulu ont voulu délibérément préserver ses archives pour qu'on en fasse l'histoire. Alors notre invitée, Sandrine Cotte, bonjour. Qui se consacre à l'histoire de la RDA et maintenant à l'histoire de l'Allemagne réunifiée, c'est bien ça, Sandrine Cotte?
Non, pas vraiment. Maintenant, je travaille sur les organisations internationales.
Non, mais vous détestez l'expression
et en plus, je déteste
Allemagne
l'expression
réunifiée.
L'Allemagne réunifiée. C'est vrai, c'est une provocation, là.
Tout à fait. Vous avez manipulé de très grands fonds d'archives quand vous avez travaillé il y a plus de 10 ans maintenant un livre sur le communisme au quotidien en RDA qui a été publié chez Belin. Et ça, ce n'est pas une provocation, c'est une information qui va être traduite bientôt en anglais. D'immenses fonds d'archives.
Oui. Oui, la RDA, comme tous les régimes de dictature, évidemment, a produit énormément de sources. Et au moment où le mur est tombé, comme vous l'avez bien rappelé, les opposants ont fait tout ce qu'il fallait pour préserver ces archives, pour les ouvrir assez rapidement, parce qu'ils pensaient qu'on allait trouver la vérité, en fait, sur ce régime en regardant leurs archives. En fait, comme toujours, bien sûr, les archives ne livrent pas véritablement de vérité. Il n'y a pas eu de révélation extraordinaire sur le régime. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si on les croit, ces archives, donc les archives produites par les différentes grandes organisations, puisque l'ensemble de ces sociétés était une société organisée, hein, à travers des organisations de masse, etc. Si on les croise, on arrive finalement à obtenir une vision assez intéressante de cette société. Donc les archives des syndicats, les archives du parti, bien sûr, du parti au pouvoir, le SED, les archives produites par les organisations de jeunesse, les archives produites par la justice, par exemple, les archives de la justice sont extrêmement intéressantes, les archives de la police, les archives, bien sûr, de la Stasi. J'imagine que tout le monde attend la référence à la Stasi.
Et les archives des entreprises.
Et les archives des entreprises.
Beaucoup intéressé,
voilà.
Ça.
Alors, les archives des entreprises sont en fait localement, livrent localement les archives de toutes ces organisations, mais inscrites donc dans l'espace de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est cette espèce d'interface entre la société et le pouvoir. C'est ce qui est le plus au ras du sol.
Alors, dans la société, c'est le titre d'un petit livre à la découverte que vous publiez encore sur la RDA cette année. On va regarder tout particulièrement ce qui se passe dans les entreprises et au cœur des entreprises, bien sûr. Il y a la classe ouvrière. Il y a d'ailleurs un État parti. Le SED, c'est le parti de la classe ouvrière. Et à la création de la RDA en 49-50, il est impensable que d'autres partis se révèlent nécessaires pour les élections. Ce qui compte, c'est l'ennemi de classe contre lequel on va se constituer. Les radios des pays de l'Est émettaient sur ondes courtes celle-ci en 50 depuis la Tchécoslovaquie.
Berlin-Est. À l'occasion des élections devant se dérouler le 15 octobre dans la République démocratique allemande, M. Walter Ulbricht a défini les conditions nécessaires à des élections pour toute l'Allemagne. Traité de paix avec l'Allemagne dans le sens des accords de Potsdam, retrait des troupes d'occupation, ce sont les seules possibilités pour le peuple allemand de se prononcer librement, a-t-il déclaré. L'empêchement essentiel pour la réalisation de telles élections dans toute l'Allemagne résulte du fait que les maîtres américains des trusts et des banques allemandes veulent maintenir leur dictature sur l'Allemagne de l'Ouest.
Alors au départ, la base du régime, un petit peu comme le système d'émission en onde courte dont on vient d'entendre un écho, était assez faible.
Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les communistes, en général, bon, il y avait des communistes, évidemment, en Allemagne avant le nazisme, mais ce parti communiste était de toute façon pas majoritaire, il était quand même très minoritaire. Et par ailleurs, il a été totalement décimé de deux manières. D'une part, parce que les communistes qui sont partis en exil en Union soviétique, pour entre la moitié et les deux tiers, les communistes allemands ont été éliminés par Staline. Donc la tête du parti communiste a été largement décimée. Et puis les autres, ceux qui sont restés sur place, ils ont été décimés dans les camps de concentration, en particulier à Buchenwald, à Mauthausen, etc. Donc c'était un parti de toute façon qui était faible et qui n'a pu s'implanter que parce qu'il était ramené par les soviétiques qui étaient eux-mêmes extrêmement impopulaires en Allemagne. D'abord, il y a une longue tradition d'impopularité des Russes en Allemagne, puisque c'est en fait les voisins asiatiques, et une impopularité qui a été très exploitée par les nazis, bien sûr.
Le parti communiste, le SED, va se couper d'ailleurs peu de temps après la création de la RDA de beaucoup de ses meilleurs militants. Il faut évoquer brièvement ce qui s'est passé le 16 et le 17 juin 1953, après l'annonce par le gouvernement d'un accroissement des normes de travail, une révolte immense, la grève dans 600 entreprises, les emblèmes du régime arrachés, les membres du parti pris à partie.
Le Neues Deutschland, organe officiel du Parti Socialiste Unifié, admet ce matin que la provocation occidentale a réussi à entraîner dans le mouvement de grève et de protestation les ouvriers d'un certain nombre d'entreprises qu'il énumère. Les actes qui ont marqué les journées du 16 et du 17 sont qualifiés par le journal communiste d'actions de banditisme et de pillage, œuvres de fascistes et de provocateurs venus de Berlin-Ouest. L'éditorialiste du Neues Deutschland affirme que les ouvriers ont maintenant honte de s'être laissés entraîner à s'être révoltés contre leur gouvernement. Celui-ci a pu commettre des fautes, mais qui n'en commet pas? On veillera à les corriger, mais pour le moment, il y a autre chose à faire. Arrêter et châtier sans pitié tous les meneurs. Cette action marquera, dit le journal officiel du parti, une nouvelle étape de l'histoire de la République démocratique allemande.
Sauf que les meneurs, ce sont souvent des militants du parti et parmi les meilleurs militants du parti. On va passer d'un parti de militants à un parti d'hommes d'appareil.
Alors, il y a des communistes qui ont manifesté au moment du 17 juin, donc dans les grandes manifestations berlinoises, mais il n'y a quand même pas que des communistes, il faut quand même le dire. Donc, le Parti Socialiste Unifié, hein, le SED, c'est en fait le Parti Communiste. C'est compliqué parce qu'évidemment, on dit socialiste à la place de communiste. Donc, de fait, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le 17 juin 1953, enfin à l'issue du 17 juin 1953, il y a eu des grandes purges à l'intérieur du parti qui ont été probablement surestimées. En fait, elles sont moins importantes que ce qu'on avait pensé. Mais ce qui est clair, c'est que les gens qui ont à ce moment-là été épurés étaient les communistes de la base, les ouvriers communistes, car il y en avait, et ces ouvriers communistes qui n'avaient pas tellement l'intention de faire carrière en étant communistes, puisque ensuite, bien sûr, être communiste, être membre du parti, c'est un moyen de faire carrière à l'intérieur de l'appareil d'État. Bon, pour les ouvriers communistes d'avant, ceux de la République de Weimar et ceux qui avaient continué à travailler dans la résistance sous le nazisme, finalement, être communiste, c'était d'abord essayer de construire une autre société. C'était pas appartenir à l'appareil d'État. Et donc, ces gens-là, en 53, bien, ils sont pas d'accord avec l'augmentation des normes. Et donc, ils manifestent qui fait partie de leur habitus communiste, bien sûr. Et
donc, ils sont renvoyés. J'étais penché avec ma truelle sur le mur en construction. Le coup de feu est parti. La moitié de la truelle a été emportée. Bertolt Brecht. Enfin, quand même, la reconstruction,
bon,
elle va se faire.
Oui, à propos de Bertolt Brecht, vous savez qu'il a eu cette fameuse phrase: si les dirigeants ne veulent pas ce peuple-là, alors il faut qu'ils changent de peuple.
La reconstruction va quand même se faire. Le rationnement cessait seulement en 1958. S'ouvrir un début d'ère de consommation et de stabilisation dans les années 60-70 qui vous sont chères. Alors, c'est de ces années qu'on va parler tout à fait particulièrement. Voici un reportage du journal télévisé français de 74, un peu à la gloire d'une entreprise de RDA. Les Français de l'époque gaulliste s'entendaient assez bien avec les dirigeants de la RDA. Il faut dire que du côté du général de Gaulle, on avait tendance à penser que si la RDA n'avait pas existé, l'Allemagne serait un peu grande.
Mmh. Oui, non, il y avait une proximité, donc on voit aussi d'ailleurs dans les sources des organisations internationales, par exemple, et qui est liée aussi à une espèce de, je dirais, de proximité antifasciste, il faut quand même le dire. Ces anciens résistants eh bien, se retrouvaient sur la base de l'antifascisme avec les Allemands de l'Est. Et ça, c'est une manière en fait d'interroger la guerre froide, d'ailleurs, à cet égard, assez intéressante.
Gérard Saint-Paul est en déplacement pour le journal télévisé en 1974 dans une famille modèle, celle du camarade Fischer.
L'usine CEMAG compte aujourd'hui 3000 ouvriers. Elle est décorée de l'ordre Karl Marx. Elle se consacre à la fabrication de grues et de matériel lourd, un modèle de qualité, d'ordre et de sécurité. Le travail est organisé par brigades. L'objectif permanent est d'améliorer la productivité. Plus qu'aux stimulations matérielles, on fera appel aux motivations idéologiques. Le comité syndical d'entreprise, dont M. Fischer a la responsabilité, donne chaque mois le palmarès de la meilleure brigade avec le nombre de points. L'émulation est l'élément de base, non seulement de la productivité à l'usine, mais aussi de toute la vie sociale en RDA.
Camarade Fischer ou Monsieur Fischer, militant ou homme de confiance, homme d'appareil?
Oui, alors c'est évidemment dans les années dont il s'agit ici, le parti est devenu quand même le lieu de fabrication des cadres, c'est-à-dire des gens qui montent à l'intérieur de l'appareil d'État et de l'appareil du parti, les deux en fait étant extrêmement proches, même si ils ne se confondent pas exactement. Donc revenons à l'objet de cette petite
De ce reportage de Gérard Saint-Paul, ouais, fonctionnement du syndicat, des brigades de production.
Alors les brigades et les syndicats, c'est pas la même chose, donc c'est très intéressant ce reportage. La société est-allemande a fonctionné effectivement en grande partie sur le modèle de la brigade. Donc ces brigades étaient des brigades de production à l'intérieur des entreprises, mais elles organisaient l'ensemble du corps social, hein, y compris les journalistes étaient en brigade, absolument tout le monde était en brigade. Mais elles fonctionnaient relativement bien dans les entreprises industrielles. Il faut dire quand même qu'il y avait beaucoup d'ouvriers en RDA. Hein. On avait des entreprises où il y avait énormément de monde, donc ils vous disent 3000 personnes, mais c'est une entreprise normal de RDA, il y avait beaucoup d'ouvriers. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une brigade? Une brigade, c'était une unité de production qui n'était pas dominée, qui était indépendante du syndicat, en réalité. C'est pas le syndicat, la brigade, c'est autre chose. C'est une unité de production qui est aussi une unité de vie. Les gens à l'intérieur de la brigade ont aussi une vie collective à l'extérieur de l'entreprise, ça organise la vie collective, et d'ailleurs dans ce qui est ce qu'on appelle les journaux de brigade, c'est-à-dire en fait une espèce d'un journal intime de la brigade, écrite par le brigadier, le chef de la brigade, ou la brigadière, puisqu'il y avait des brigades de femmes aussi, eh bien on voit que cette unité de production, elle organise la vie des gens.
Et chacun observe l'autre. Mais dites-moi, Sandrine Cotte, s'il y a un conflit, parce qu'il y a eu des conflits sur les rémunérations et les normes encore. Oui. C'est le syndicat ou la commission des conflits ou la brigade qui le règle.
Alors, quand il y avait des conflits, il y avait différents canaux pour régler les conflits. Alors, la brigade, en fait, est un lieu, comme vous l'avez dit, de surveillance des uns par les autres. C'est un lieu, évidemment, à la fois de vie, mais c'est aussi un lieu de surveillance. Quand quelqu'un est malade, etc., le brigadier, par amitié pour la personne, va vérifier qu'elle est vraiment malade. Donc, l'endroit où on discutait véritablement, je dirais, de manière ouverte des conflits, c'est effectivement ce qu'on appelle la commission de conflits, qui est une commission qui était en fait beaucoup plus utilisée par la direction de l'entreprise que par les ouvriers, puisque la commission de conflit, la direction de l'entreprise utilisait la commission de conflit pour disciplinariser la main-d'œuvre, en quelque sorte.
Mais dites-moi, disciplinariser la main-d'œuvre en même temps, ces lieux étaient des instruments d'une éducation qui faisait advenir l'homme nouveau à la culture socialiste, parce qu'il y avait des brigades de production, mais aussi les bibliothèques, les chorales, les cercles d'amateurs, que sais-je.
Oui, ça c'est encore autre chose. À l'intérieur des entreprises, comme d'ailleurs à l'intérieur de la société est-allemande, il y a eu la volonté de diffuser une culture, qui est en fait une culture, je dirais la culture classique allemande, hein, pas du tout une culture spécifiquement ouvrière. Et il y a eu un effort extrêmement important qui a été fait dans cette direction. Alors, juste un exemple, parce que je trouve cet exemple assez révélateur. Dans certaines grandes entreprises de Berlin, les bibliothécaires apportaient au moment de la pause des chariots de livres jusque dans les ateliers pour que les gens, en fait, puissent emprunter des livres. Et il y avait aussi des abonnements au théâtre, etc., etc. Il y avait effectivement une espèce de valorisation de la culture. Mais, et je voudrais insister sur ce point, c'est une grande tradition du mouvement ouvrier allemand, et en particulier ça puise ses racines dans la social-démocratie allemande de la fin du 19e siècle, dans lequel déjà la culture était vue comme un moyen d'anoblir la classe ouvrière.
Et la belle saison venue, c'était le temps des festivals. Ainsi, en 73, année glorieuse pour la RDA, le Festival de la Jeunesse.
Dass der Hungertod nicht mehr jeden Tag viele Menschen bedroht und der ärmste Mensch was zu essen hat, jeder sei satt. Wie stellen wir jedem Krieg ein Bein und sperren die Waffen für immer ein, damit Kraft und Geld, die der Krieg verschlingt, Freundlichkeit bringt.
Nur durch die Einheitsfront der Jugend der ganzen Erde, nur durch die Einheitsfront der Jugend der Welt.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec ce mot d'ordre, nous parlons de feu, la RDA, paix, amitié, solidarité. Sandrine Cotte, qui a publié Le communisme au quotidien chez Belin, puis un livre sur la société en RDA, La découverte est notre invité. Ça vous a une allure, nous dit notre réalisateur, d'Eurovision, encore heureux qu'il n'ait pas parlé de JMJ. Mais non, c'est une grande année 73, une année jubilaire pour la RDA. Qu'est-ce qui se passe en 73 ?
En 73, d'abord, c'est la reconnaissance de la RDA, c'est son entrée à l'ONU, donc c'est, je dirais... une espèce de d'année miracle, en gros, pour la RDA. Et puis, il y a ce Festival international de la jeunesse qui donne de la RDA à l'extérieur l'image d'un pays qui attire la jeunesse, qui est un pays qui va donc attirer l'avenir et qui veut se donner. Elle veut donner ses, alors, c'est ce qui est
encore
très intéressant.
Arrière-plan.
Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant qu'on a regardé les archives de la Stasi, on sait que ce Festival de la jeunesse a été préparé par une surveillance extrêmement forte des milieux donc de l'opposition, il y en avait déjà, et par énormément d'emprisonnements. Donc dans des milieux, que je voudrais signaler ça, c'est une chose importante, parmi les gens qu'on appelait les asociaux, c'est-à-dire des gens qui étaient un petit peu en marge du système et qu'on a systématiquement à ce moment-là, du moins pour le moment du festival, mis en prison.
La Stasi, le ministère de la Surveillance, a de plus en plus d'employés à mesure qu'avancent les années, 52 000 en 71, ça va presque doubler d'ici la fin du régime, à quoi il faut ajouter les informateurs, peut-être un habitant sur 100, dites-vous, Sandrine Cotte. Alors on se souvient du film La vie des autres, deux personnages importants, un officier de la Stasi et Dreimann, un grand homme de spectacle, communiste, fêté, mais guetté aussi, comme le fut dans la réalité, à cette époque, au milieu des années 70, Wolf Biermann.
Je ne peux pas m'empêcher ce soir de porter un toast à la santé de notre créateur ici présent. Un célèbre socialiste, je ne sais plus lequel, a déclaré un jour que le poète est l'ingénieur de l'âme. Et Georg Dreimann est un des ingénieurs les plus significatifs de notre pays.
Georg Dreimann.
L'exemple même de l'arrogance contre laquelle je mets en garde mes étudiants.
Arrogant, mais fidèle au parti. C'est à peu près notre seul auteur qui n'écrive rien de répréhensible et qui soit tout de même lu à l'Ouest. Pour lui, notre RDA est le plus beau pays au monde.
C'est un type bien, ce Dreimann, non ?
On devrait le faire surveiller.
Surveiller ? Faire surveiller un tel homme, c'est se retourner contre son camp.
Biermann, der kommunistische Troubadour, der proletarische Poet.
Keine Party ohne Biermann. Ist bei manchen die Parole. Und sie rufen bei mir an, komm, wir haben eine Bowle. Guter Biermann, bester Biermann, komm mit deinen beiden Geigen.
Ach, ich kenn die Leier schon und ich sag ins Telefon.
Naja, sie können das gern haben, sie können mich gern haben. Sie können mich, sie können mich, sie können mich, sie können mich, sie können mich mal gern haben. Ein gewisser Chef vom Fernsehen drückt mir neulich feucht die Hand. Guter Biermann, bester Biermann, wollen Sie nicht bei uns was singen? Sie können bringen, was Sie wollen. Auch die schlimmen, auch die dollen Lieder, sagt er voller Gier. Was im Fernsehen? Nein, bei mir.
Gerne. 1976 suit de peu 1973. On vient d'entendre Wolf Biermann, qui n'est pas un personnage de fiction comme le Dreyman du film La vie des autres.
Oui, dans l'un. Dans
et qui un... part en 76.
Oui, enfin, il part pas. Il est ausgebürgert, il est expulsé. En fait, il fait un concert. On lui donne pas la possibilité de rentrer.
Qu'est-ce qu'il dit dans ses concerts? Quelque chose du genre alors, de ce qu'on vient d'entendre?
Alors là, en tout cas, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est très amusant et ça fait très bien écho donc à l'extrait de La vie des autres. C'est cette espèce d'ambiguïté que le régime a à l'égard des artistes. Une ambiguïté fondamentale très intéressante.
Pas de parti sans Biermann, dit le chansonnier.
Ce que dit Biermann, c'est oui, tout le monde veut m'entendre, mais personne ne veut m'entendre publiquement. C'est-à-dire que à la fois être un artiste, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Le régime de la RDA, le parti a soigné quand même les artistes énormément et les a en fait, on peut dire presque politiquement corrompus par un certain nombre de... Parce qu'ils étaient très bien payés, c'était des gens qui étaient des privilégiés du régime. Ils avaient une fonction, ou du moins ils avaient le sentiment d'avoir une fonction politique, et c'est ce que dit Biermann aussi dans sa chanson. Et en même temps, ils s'en méfiaient énormément parce que c'était comme une espèce d'espace public secondaire, ils constituaient un espace public secondaire, et ils pouvaient faire entendre une parole qui aurait pu être éventuellement une parole dissidente.
76, il est à Cologne, Biermann, oui. À l'invitation d'un syndicat ouest-allemand. Il dit un peu ce qu'on a entendu dans cette chanson et puis on lui retire sa nationalité. Il ne peut pas retourner à Berlin-Est où vit sa fille Nina Hagen qui va être consignée pendant un an et il ne va pouvoir le rejoindre qu'en 1977. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui protestent ensuite.
Oui, ça a été le grand moment de la protestation des intellectuels. Les grands intellectuels du régime ont à ce moment-là signé une protestation contre l'expulsion. Pas vraiment une expulsion, hein. Donc le retrait de la nationalité est-allemande à Biermann. Tous les plus imminents, en fait, ont à ce moment-là signé cette protestation. Ça a été un grand moment. Et Christa Wolf, par exemple, en parle. Donc, grande écrivaine est-allemande en parle. Volker Braun, etc. Tous les grands écrivains. C'est très important, cette scène. Littéraire, on les connaît bien, mais les artistes plasticiens jouent également un rôle extrêmement important en RDA parce qu'ils avaient des contrats avec les entreprises, ils peignaient dans les entreprises, ils peignaient des fresques à l'extérieur. La présence de l'art était très forte dans ce pays.
Vous parlez de nouveau des entreprises, il faut savoir que la surveillance, elle jouait aussi dans les milieux économiques. Quand une délégation de la RDA partait chez Renault, les dirigeants de la RDA préféraient les Renault aux Mercedes. Il y avait, dites-vous, un délégué sur deux qui était un informateur.
Oui, en général, plus on monte dans l'appareil d'État, plus le nombre d'informateurs augmente. C'est-à-dire que c'est amusant, c'est un régime qui surveille lui-même. Et il y a en revanche des endroits où il y a assez peu d'informateurs parce qu'on trouve assez peu de gens à recruter pour faire les informateurs, comme par exemple dans les ateliers de production dans les entreprises, où là, il y a assez peu de monde qui est capable. Et ça a d'ailleurs beaucoup inquiété la Stasi dans les années 80, au moment où il y a eu des demandes puisqu'il y avait normalement, le régime permettait officiellement de partir, et donc il y avait des gens qui faisaient des demandes pour partir, en particulier donc au sein des entreprises, ils posaient des demandes, et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'informateurs pour vérifier qui étaient ces gens et pour faire les enquêtes. En revanche, au sein de l'appareil d'État, et donc en particulier dans les délégations à l'étranger, alors là, il y avait un nombre d'informateurs extrêmement important. Généralement, 50% des gens étaient informateurs.
Alors celui qui, de la RDA, part via l'URSS dans l'espace, il est surveillé par ceux qui habitent la même cellule spatiale que lui, mais les Allemands de l'Est qui connaissent dans les années 70-80 d'extraordinaires succès dans les sports de glace, en natation.
Le 26 août 1978, nous étions au top du niveau mondial. Sigmund Jähn, citoyen de la République démocratique allemande, fut le premier Allemand à voyager dans l'espace.
Je prends place dans le vaisseau spatial Soyouz 31. avec les membres de l'équipage international et nous sommes prêts à décoller.
Tandis que Yen représentait vaillamment la RDA dans le cosmos.
Victoire de l'Allemagne de l'Est hier en Coupe d'Europe de natation. Les nageurs et nageuses est-allemands ont encore surclassé tous leurs adversaires. Voilà qui confirme une fois de plus la suprématie de la nation est-allemande dans les grandes rencontres sportives européennes. En 10 ans, la RDA a fait des progrès considérables au point que l'on parle aujourd'hui de phénomène. Un phénomène que nous allons tenter d'expliquer. Il y a là dans ce studio Pierre Salviac et Bernard Père. Alors qui attaque ? Qui commence l'explication ?
Puisque j'arrive de RDA, je vais me permettre d'attaquer pour dire que c'est un phénomène particulièrement intéressant mais difficile d'approche dans la mesure où les renseignements que nous pouvons posséder viennent de sources officielles et qui sont parfois très difficiles à vérifier. Cela dit, la nouvelle constitution qui a été votée par référendum en 68 consacre 3 chapitres à l'initiation et à la pratique du sport. La constitution définit le droit au sport et aux exercices physiques comme un droit fondamental de l'homme dans la société est-allemande au même titre que les droits au travail et à la détente et à la sécurité sociale.
Certes, mais puisque vous venez de RDA, Sandrine Cotova, puisque vous venez des archives de la RDA, expliquez-nous comment ça s'est délité. C'est le mot, c'est une implosion.
Oui, oui, ça s'est délité de l'intérieur d'abord, avant même que ce soit attaqué par des gens qui étaient hostiles. C'est un régime qui s'est délité de l'intérieur. Il y a plusieurs facteurs, je vais juste en citer quelques-uns. D'abord, il y a un facteur économique. Hein. L'économie est-allemande n'était pas soutenable, comme on dirait aujourd'hui. Elle vivait en fait à crédit, au crochet de l'Allemagne de l'Ouest, en grande partie.
C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest consentait...
Oui. Ah, depuis la Ostpolitik de Brandt.
À la RDA, un rôle de débitrice.
Voilà, ils ont prêté énormément à l'Allemagne de l'Est. Et puis, en fait, même quand on connaît le tissu industriel donc, de la RDA, il n'y avait plus d'argent pour renouveler les machines. Donc, c'était un appareil de production qui s'essoufflait en soi. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'était aussi une structure sociale qui était bloquée. Il n'y avait plus d'ascension sociale des plus jeunes. On voit ça très bien dans Goodbye Lénine, hein, ce jeune au début qui est là sur un banc.
Extrait, ouais.
Voilà, qui est là sur un banc et qui ne sait pas quoi faire. C'est une incarnation en réalité du blocage de la jeunesse. La jeunesse était absolument bloquée. Ça, c'est un problème qui est général dans toutes les sociétés de l'Est de l'Europe, de ces pays socialistes, parce qu'il y a une espèce de gérontocratie qui s'implante, qui est la gérontocratie du parti et qui ne laisse aucune place donc, à l'ascension sociale.
Et la Stasi assiste à ça impuissante ?
Alors, la Stasi connaît très bien, effectivement, elle sait tout. Hein. La Stasi sait tout. Donc, elle sait très bien, quand on regarde les archives, qu'il y a une position organisée assez importante. Elle sait, enfin, qui reste minoritaire en nombre, hein, c'est même quelques milliers de personnes en fait, mais qu'elle diffuse énormément dans l'ensemble de la population, qu'il y a un mécontentement social extrêmement fort, mais en même temps. C'est le parti qui doit agir, puisque la Stasi est juste normalement aux ordres du parti. Et le parti, en fait, ne peut plus gouverner, pour des raisons extrêmement complexes, n'est plus véritablement en mesure de gouverner ce pays. Il le domine, mais ne le gouverne plus. Pour et dire, du coup, il y a une implosion naturelle qui se fait.
Oui. Implosion, avez-vous dit. Pour des raisons assez complexes, vous n'utilisez pas le mot « révolution » et vous n'insistez pas sur la part qu'on jouait quand même un certain nombre de citoyens et de militants de RDA.
Bon, je ne dis pas qu'ils ont joué aucun rôle, mais bien sûr, ils ont joué un rôle, mais en même temps, ils ont été la partie, je dirais, immergée de l'iceberg. Et il y a une espèce de dissolution souterraine de l'ensemble de ces sociétés. Sinon, on ne pourrait pas expliquer que des nombres aussi petits aient réussi, en quelque sorte, à mettre un terme à ce régime qui, en fait, était déjà très affaibli de l'intérieur.
Ainsi fut réunifié, c'est encore un mot qu'il ne faut pas utiliser, l'Allemagne. Merci à vous, Sandrine Cotte, demain sur Arte à 22h25. Adieu camarades, feu de la RDA. Et demain nous parlerons de Marc Bloch, chercheur français. Et vous fréquentez beaucoup cet endroit. On crée à Berlin un centre Marc Bloch. Jacques Sigal à la réalisation, à la préparation. Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, Martin Penet et à la technique Gilles Gaillard et Yann Bouillot.